Macbeth de Shakespeare. La scène est partie en Écosse, partie en Angleterre. Scène 1. Un lieu découvert, tonnerre et éclair. Les trois sorcières entrent.
Quand nous réunirons-nous de nouveau toutes les trois, en coups de tonnerre, en éclair ou en pluie? Quand le hourvari aura cessé, quand la bataille sera perdue et gagnée, ce sera avant le coucher du soleil. En quel lieu? Sur la bruyère, pour y rencontrer Macbeth. J'y vais, Grimalkin.
Les trois sorcières ensemble.
Paddock appelle, tout à l'heure. Le beau est affreux, et l'affreux est beau. Planons à travers le brouillard et l'air impur.
Les sorcières s'évanouissent. Scène 2. Un camp près de Forès. Alarme derrière le théâtre. Entre le roi Duncan, Malcolm, Donald Ben, Lennox et leur suite. Il rencontre un soldat ensanglanté. Duncan.
Quel est cet homme sanglant? Il peut, à en juger par l'état où il est, nous donner les plus récentes nouvelles de la révolte.
Malcolm.
C'est le sergent qui a combattu en bon et hardi soldat pour me sauver de la captivité. Salut, brave ami. Dis au roi ce que tu sais de la mêlée, telle que tu l'as quittée.
Le soldat.
Elle restait douteuse. On eût dit deux nageurs épuisés qui se cramponnent l'un à l'autre et étouffent leur savoir-faire. L'implacable Mac Donvald, bien digne d'être un rebelle, tant les vilainies multipliées de la nature pullulent en lui, avait reçu des îles de l'Ouest un renfort de Cairns et de Galloglacis. Et la fortune, souriant à sa révolte damnée, semblait se prostituer aux rebelles. Mais tout cela était trop faible, car le brave Macbeth, il mérite bien ce nom, dédaignant la fortune et brandissant son épée, toute fumante de ses sanglantes exécutions, en vrai mignon de la valeur, s'est taillé un passage jusqu'à ce misérable. Et il ne lui a serré la main et ne lui a dit adieu qu'après l'avoir pourfendu du nombril à la mâchoire et avoir fixé sa tête sur nos créneaux.
Duncan. Ô vaillant cousin, digne gentilhomme. Le soldat.
De même que souvent au point d'où partent les rayons du soleil surgissent des tempêtes grosses de naufrages et d'effrayants tonnerres, ainsi de ce qui semblait être une source de joie jaillissent les alarmes. Écoutez, roi d'Écosse, écoutez! À peine la justice armée de la valeur avait-elle forcé les Cairns bondissants à se fier à leurs talons, qu'épiant l'occasion le lord de Norvège, avec des armes fraîchement fourbies et de nouveaux renforts, à commencer un autre assaut.
Duncan. Cela n'a-t-il pas effrayé nos capitaines Macbeth et Banquo? Le soldat.
Oui, comme le moineau effraie l'aigle ou le lièvre le lion. Pour dire vrai, je dois déclarer qu'ils étaient comme deux canons chargés à double mitraille, tant ils frappaient sur l'ennemi à coups redoublés. Voulaient-ils se baigner dans des blessures fumantes ou immortaliser un second Golgotha? Je ne puis le dire, mais je suis épuisé, mes plaies crient au secours.
Duncan.
Tes paroles te vont aussi bien que tes blessures. Elles sentent également l'honneur. Allez, qu'on lui donne des chirurgiens.
Le soldat sort, s'appuyant sur des aides.
Qui vient ici?
Entre Ross et Angus.
Malcolm. C'est le Dingtan de Ross.
Lennox.
Quel empressement dans ses regards! Il a l'air d'un homme qui a d'étranges choses à dire. Ross. Dieu sauve le roi. Duncan. D'où viens-tu, Dingtan?
Ross. De Fif, grand roi, où les bannières norvégiennes narguent le ciel et éventent notre peuple frissonnant. Le roi de Norvège lui-même, avec ses masses terribles, assisté par le plus déloyal des traîtres, le Tan de Kodor, engageait une lutte fatale. Quand lui, le fiancé de Bellone, cuirassé à l'épreuve, a affronté le rebelle dans une joute corps à corps, pointe contre pointe, bras contre bras, et a dompté sa valeur sauvage. Pour conclure, la victoire nous est échue.
Duncan, ô bonheur!
Ross. Si bien que maintenant Sveno, roi de Norvège, demande à entrer en composition. Nous n'avons pas daigné lui laisser enterrer ses hommes qu'il n'eût déboursé à Saint-Colmich $10,000 pour notre usage général.
Duncan. On ne verra plus ce Tan de Kodor trahir notre plus cher intérêt. Allez, comprenons sa mort.
Et que du titre qu'il portait, on salue Macbeth.
Ross. Je veillerai à ce que ce soit fait.
Duncan. Ce qu'il a perdu, le noble Macbeth l'a gagné.
Ils sortent.
Scène 3. Une bruyère, tonnerre.
Les trois sorcières entrent.
Première sorcière.
Où as-tu été, sœur?
Deuxième sorcière.
Tu es le cochon.
Troisième sorcière.
Et toi, sœur?
Première sorcière.
La femme d'un matelot avait dans son tablier des châtaignes, qu'elle mâchait, mâchait, mâchait. Donne-m'en, lui dis-je. Décampe, sorcière, crie la carogne nourrie de rebut. Son mari est parti pour Alep comme le patron du tigre, mais je vais m'embarquer à sa poursuite dans un crible, et sous la forme d'un rat sans queue, j'agirai, j'agirai, j'agirai.
Deuxième sorcière.
Je te donnerai un vent.
Première sorcière. Tu es bien bonne.
Troisième sorcière.
Et moi un autre.
Première sorcière.
Et moi-même j'ai tous les autres. Je sais les ports même où ils soufflent et tous les points marqués sur la carte des marins. Je le rendrai sec comme du foin. Le sommeil, ni jour ni nuit, ne se pendra à l'auvent de sa paupière. Il vivra comme un excommunié. 9 fois 9 accablantes semaines le rendront malingre, hâve, languissant. Et si sa barque ne peut se perdre, elle sera du moins battue des tempêtes. Regardez ce que j'ai là.
Deuxième sorcière.
Montre-moi, montre-moi.
Première sorcière.
C'est le pouce d'un pilote qui a fait naufrage en revenant dans son pays.
Bruit de tambour sur le théâtre.
Première sorcière.
Le tambour, Macbeth arrive.
Toutes trois dansant,
les sœurs fatidiques, la main dans la main, messagères de terre et de mer, ainsi vont en rond, 3 tours pour toi et 3 tours pour moi, et 3 de plus pour faire 9. Paix, le charme est dans le cercle.
Entre Macbeth et Banquo.
Macbeth.
Je n'ai jamais vu un jour si sombre et si beau.
Banquo.
À quelle distance sommes-nous de Forès? Quelles sont ces créatures si flétries et si farouches dans leurs accoutrements, qui ne ressemblent pas aux habitants de la terre et pourtant sont sur la terre? Vivez-vous? Êtes-vous quelque chose qu'un homme puisse questionner? On dirait que vous me comprenez. À voir chacune de vous placer son doigt noueux sur ses lèvres de parchemin, vous devez être femme. Et pourtant vos barbes m'empêchent de croire que vous l'êtes.
Macbeth.
Parlez si vous pouvez. Qui êtes-vous?
Première sorcière.
Salut, Macbeth. Salut à toi, Tan de Glamis.
Deuxième sorcière.
Salut, Macbeth. Salut à toi, Tan de Kodor.
Troisième sorcière.
Salut, Macbeth, qui plus tard sera roi.
Banquo.
Mon bon seigneur, pourquoi tressaillez-vous et semblez-vous craindre des choses qui sonnent si bien?
Aux sorcières.
Au nom de la vérité, êtes-vous fantastique ou êtes-vous vraiment ce qu'extérieurement vous paraissez? Vous saluez mon noble compagnon de ses titres présents et de la haute prédiction d'une noble fortune et d'un avenir royal, si bien qu'il en semble ravi. À moi, vous ne parlez pas. Si vous pouvez voir dans les germes du temps et dire quelle graine grandira et quelle ne grandira pas, parlez-moi donc, à moi qui ne mendie et ne redoute ni vos faveurs ni votre haine.
Première sorcière.
Salut.
Deuxième sorcière.
Salut.
Troisième sorcière.
Salut.
Première sorcière.
Moindre que Macbeth et plus grand.
Deuxième sorcière.
Pas si heureux, pourtant bien plus heureux.
Troisième sorcière.
Tu engendreras des rois sans être roi toi-même. Donc salut Macbeth et Banquo.
Première sorcière.
Banquo et Macbeth, salut.
Macbeth.
Demeurez, oracles imparfaits, dites-moi davantage. Par la mort de Cynel, je le sais, je suis Tan de Glamis. Mais comment de Cawdor? Le Tan de Cawdor vit, gentilhomme prospère. Et quant à être roi, cela n'est pas plus dans la perspective de ma croyance que d'être Tan de Cawdor. Dites de qui vous tenez cet étrange renseignement, ou pourquoi sur cette bruyère désolée vous barrez notre chemin de ces prophétiques saluts. Parlez, je vous l'ordonne.
Les sorcières s'évanouissent. Banquo.
La terre a comme l'eau des bulles d'air, et celles-ci en sont. Où se sont-elles évanouies?
Macbeth.
Dans l'air, et ce qui semblait avoir un corps s'est fondu, comme un souffle dans le vent. Que ne sont-elles restées?
Banquo.
Les êtres dont nous parlons étaient-ils ici vraiment? Ou avons-nous mangé de cette racine insensée qui fait la raison prisonnière?
Macbeth. Vos enfants seront rois.
Banquo. Vous serez rois.
Macbeth.
Et Tan de Cawdor aussi, ne l'ont-elles pas dit?
Banquo.
En propres termes, avec le même accent. Qui va là?
Entre Ross et Angus.
Ross, le roi a reçu avec bonheur Macbeth, la nouvelle de ton succès, et à la lecture de tes aventures personnelles dans le combat contre les révoltés, son admiration et son enthousiasme hésitent à s'exprimer autant qu'à se taire, interdit par tes exploits dans le cours de la même journée, il te trouve au plus épais des rangs norvégiens, impassible devant tous ces spectres étranges que tu fais toi-même. Avec la rapidité de la parole, les courriers succédaient aux courriers, et chacun d'eux rapportait tes prouesses dans cette grandiose défense de son royaume, et les versait à ses pieds.
Angus,
nous sommes envoyés pour te transmettre les remerciements de notre royal maître, chargé seulement de t'introduire en sa présence, et non de te récompenser.
Ross.
Et comme art d'un plus grand honneur, il m'a dit de t'appeler de sa part Tan de Cawdor. Salut donc, digne Tan, sous ce titre nouveau, car il est à toi.
Banquo.
Quoi donc? Le diable peut-il dire vrai?
Macbeth.
Le Tan de Cawdor vit. Pourquoi me revêtez-vous de manteaux empruntés?
Angus.
Celui qui était Tan de Cawdor vit encore, mais un lourd jugement pèse sur sa vie qu'il a mérité de perdre. Était-il ouvertement ligué avec ceux de Norvège, ou a-t-il appuyé le rebelle par des secours et des subsides cachés, ou bien a-t-il travaillé par une double complicité au naufrage de son pays? Je ne sais pas. Mais le crime de haute trahison prouvé et avoué a causé sa chute.
Macbeth à part.
Glamis est âne de Cawdor, le plus grand est encore à venir.
Tout haut à Angus.
Merci pour votre peine.
Tout bas à Banquo.
N'espérez-vous pas que vos enfants seront rois, puisque celles qui m'ont donné le titre de Cawdor ne leur ont pas promis moins qu'un trône.
Banquo,
une conviction aussi absolue pourrait bien élever votre ardeur jusqu'à la couronne, au-dessus du titre de Cawdor, mais c'est étrange. Souvent, pour nous attirer à notre perte, les instruments des ténèbres nous disent des vérités. Ils nous séduisent par d'innocentes bagatelles pour nous pousser en traître aux conséquences les plus profondes.
Aros et Angus.
Cousin, un mot, je vous prie.
Macbeth, à part.
Deux vérités ont été dites. Heureux prologue à ce drame gros d'un dénouement impérial.
Aros et Angus.
Merci, messieurs.
À part.
Cette sollicitation surnaturelle ne peut être mauvaise, ne peut être bonne. Si elle est mauvaise, pourquoi m'a-t-elle donné un gage de succès en commençant par une vérité? Je suis âne de Cawdor. Si elle est bonne, pourquoi céder à une suggestion dont l'épouvantable image fait que mes cheveux se dressent et que mon cœur si ferme se heurte à mes côtés, malgré les lois de la nature? L'inquiétude présente est moindre que l'horreur imaginaire. Ma pensée, où le meurtre n'est encore que fantastique, ébranle à ce point ma faible nature d'homme que ses fonctions sont paralysées par une conjecture, et rien n'est pour moi que ce qui n'est pas.
Banquo.
Voyez comme notre compagnon est absorbé.
Macbeth.
Si la chance veut me faire roi, eh bien la chance peut me couronner sans que je m'en mêle.
Banquo.
Les honneurs nouveaux se posent sur lui comme des vêtements encore étrangers. Ils n'adhéreront à leur moule que par l'usage.
Macbeth.
Advienne que pourra, le temps et l'occasion passent à travers la plus orageuse journée.
Banquo.
Digne Macbeth, nous attendons votre bon plaisir.
Macbeth, Aros et Angus.
Excusez-moi, mon sombre cerveau était travaillé par des choses oubliées. Bon seigneur, vos services sont consignés sur un registre dont je tourne chaque jour la feuille pour les lire. Allons vers le roi.
À Banquo.
Pensez à ce qui est arrivé, et dans quelque temps, après un intérim de réflexion, nous nous parlerons l'un à l'autre à cœur ouvert.
Banquo.
Très volontiers.
Macbeth.
Jusque-là, assez. Allons, amis.
Ils sortent.
Scène 4. Forest, une chambre dans le palais, fanfare. Entre Duncan, Malcolm, Donalben, Lennox et leur suite.
Duncan. A-t-on exécuté Cawdor? Est-ce que ceux de la commission ne sont pas encore de retour?
Malcolm.
Mon suzerain, ils ne sont pas encore revenus. Mais j'ai parlé à quelqu'un qui l'a vu mourir. D'après son rapport, Cawdor a très franchement avoué sa trahison, imploré le pardon de votre Altesse et montré un profond repentir. Rien dans sa vie ne l'honore plus que la façon dont il l'a quitté. Il est mort en homme qui s'était étudié à mourir, jetant son bien le plus précieux comme un futile colifichet.
Duncan.
Il n'y a pas d'art pour découvrir sur le visage les dispositions de l'âme. C'était un gentilhomme sur qui j'avais fondé une confiance absolue. Ô mon noble cousin!
entre Macbeth, Banquo, Ross et Angus.
À Macbeth.
Le péché de mon ingratitude me pesait déjà. Tu es si loin en avant que la reconnaissance volant à tire-d'aile est lente à te rattraper. Que n'as-tu mérité moins?
Une juste proportion de remerciements et de récompenses m'eût été possible.
Tout ce qui me reste à dire, c'est qu'il t'est dû plus que je ne puis te payer.
Macbeth. L'obéissance et la loyauté que je vous dois se paient elles-mêmes en agissant.
Le rôle de votre Altesse est de recevoir nos devoirs,
et nos devoirs sont, pour votre trône et pour l'État,
des enfants, des serviteurs, qui ne font que le juste en faisant tout consciencieusement pour votre bonheur et votre gloire.
Duncan à Macbeth.
Sois le bienvenu ici. Je viens de te planter et je travaillerai à te faire parvenir à la plus haute croissance.
À Banquo.
Noble Banquo, toi qui n'as pas moins mérité et dont les services doivent être également reconnus, laisse-moi t'embrasser et te tenir sur mon cœur.
Banquo.
Si j'y jette racine, la récolte est pour vous.
Duncan.
Ma joie exubérante, débordant dans sa plénitude, cherche à se déguiser en larmes de tristesse.
Mes fils, mes parents, vous, Tan, et vous, les plus près d'eux en dignité,
sachez que nous voulons léguer notre empire à notre aîné, Malcolm, que nous nommons désormais prince de Cumberland.
Ces honneurs à lui conférés ne doivent pas être isolés,
mais les signes nobiliaires brilleront comme des étoiles sur tous ceux qui les méritent.
Partons pour Inverness et attachez-nous plus étroitement à vous.
Macbeth.
Le loisir que je n'emploie pas pour vous est fatigue.
Je serai moi-même votre courrier et je rendrai joyeuse ma femme à l'annonce de votre approche.
Sur ce, je prends humblement congé de vous.
Duncan, mon digne Cawdor.
Macbeth à part.
Le prince de Cumberland.
Voilà une marche que je dois franchir sous peine de faire une chute,
car elle est en travers de mon chemin.
Étoiles, cachez vos feux, que la lumière ne voie pas mes sombres et profonds désirs,
que l'œil se ferme sur le geste,
et pourtant puissais-je voir accomplie la chose dont l'œil s'effraie.
Il sort.
Duncan.
C'est vrai, digne Banquo, il est aussi vaillant que tu le dis.
Je me nourris des éloges qu'il reçoit.
C'est un banquet pour moi, suivons-le, lui,
dont le zèle nous a devancés pour nous préparer la bienvenue.
C'est un parent sans égal.
Fanfare, ils sortent.
Scène 5. Inverness, une salle dans le château de Macbeth. Entre Lady Macbeth, lisant une lettre.
Lady Macbeth.
Elles sont venues à ma rencontre au jour du succès,
et j'ai appris par la plus complète révélation
qu'elles ont en effet une connaissance plus qu'humaine.
Quand je brûlais du désir de les questionner plus à fond,
elles sont devenues l'air même dans lequel elles se sont évanouies.
J'étais encore ravi par la surprise quand sont arrivés des messagers du roi
qui m'ont proclamé Tan de Cawdor,
titre dont venaient de me saluer les sœurs fatidiques
en m'ajournant aux temps à venir par ces mots.
« Salut à toi qui seras roi !»
J'ai trouvé bon de te confier cela, compagne chérie de ma grandeur,
afin que tu ne perdes pas ta part légitime de joie
dans l'ignorance de la grandeur qui t'est promise.
Garde cela dans ton cœur et à Dieu.
Tu es Glamis et Cawdor, et tu seras ce qu'on t'a promis.
Mais je me défie de ta nature.
Elle est trop pleine du lait de la tendresse humaine pour que tu saisisses le plus court chemin.
Tu veux bien être grand, tu as de l'ambition,
mais pourvu qu'elle soit sans malaise.
Ce que tu veux hautement, tu le veux saintement.
Tu ne voudrais pas tricher,
et tu voudrais bien mal gagner. Ton but, noble Glamis, te crie « Fais cela pour m'atteindre !» Et cela, tu as plutôt peur de le faire que désir de ne pas le faire. Accours ici que je verse mes esprits dans ton oreille et que ma langue valeureuse chasse tout ce qui t'écarte du cercle d'or dont le destin et une puissance surnaturelle semblent avoir couronné.
Entre un serviteur. Quelle nouvelle apportez-vous ? Le serviteur.
Le roi arrive ici ce soir.
Lady Macbeth. Tu es fou de dire cela. Est-ce que ton maître n'est pas avec lui ? Si cela était, il m'aurait averti de faire des préparatifs.
Le serviteur. La chose est certaine, ne vous en déplaise. Notre Tan approche. Il s'est fait devancer par un de mes camarades, qui, presque mort d'essoufflement, a eu à peine la force d'accomplir son message.
Lady Macbeth.
Qu'on prenne soin de lui, il apporte une grande nouvelle.
Le serviteur sort.
Lady Macbeth, seule, continuant. Le corbeau lui-même s'est enroué à croiser l'entrée fatale de Duncan sous mes créneaux. Venez, venez, esprit, qui assistez les pensées meurtrières. Dessexez-moi ici, et du crâne au talon remplissez-moi toutes de la plus atroce cruauté. Épaississez mon sang. Fermez en moi tout accès, tout passage au remords. Qu'aucun retour compatissant de la nature n'ébranle ma volonté farouche et ne s'interpose entre elle et l'exécution. Venez à mes mamelles de femme et changez mon lait en fiel, vous, ministre du meurtre, quel que soit le lieu où invisible substance vous aidiez à la violation de la nature. Viens, nuit épaisse, et enveloppe-toi de la plus sombre fumée de l'enfer. Que mon couteau aigu ne voie pas la blessure qu'il va faire, et que le ciel ne puisse pas poindre à travers le linceul des ténèbres et me crier « Arrête, arrête !»
Entre Macbeth. Lady Macbeth continuant.
Grand Glamis, digne Cawdor, plus grand que tout cela par le salut futur, ta lettre m'a transporté au-delà de ce présent ignorant, et je ne sens plus dans l'instant que l'avenir.
Macbeth. Mon cher amour, Duncan arrive ici ce soir.
Lady Macbeth. Et quand repart-il ?
Macbeth. Demain, c'est son intention.
Lady Macbeth. Oh, jamais le soleil ne verra ce demain. Votre visage, mon Tan, est comme un livre où les hommes peuvent lire d'étranges choses. Pour tromper le monde, paraissez comme le monde. Avec la cordialité dans le regard, dans le geste, dans la voix, ayez l'air de la fleur innocente, mais soyez le serpent qu'elle couvre. Il faut pourvoir à celui qui va venir, et c'est moi que vous chargerez de dépêcher la grande affaire de cette nuit, qui, pour toutes les nuits et tous les jours à venir, nous assurera une autocratie souveraine et l'empire absolu.
Macbeth. Nous en reparlerons.
Lady Macbeth. Ayez seulement le front serein. Il faut toujours craindre de changer de visage. Pour le reste, laissez-moi faire.
Ils sortent. Scène 6. Devant le château, au bois. Les serviteurs de Macbeth font la haie. Entre Duncan, Malcolm, Donald Ben, Banquo, Lennox, Macduff, Ross, Angus et la suite.
Duncan. La situation de ce château est charmante. L'air se recommande légèrement et doucement à nos sens délicats.
Banquo.
Cette hôte de l'été, le martinet familier des temples prouve par sa chère résidence que l'haleine du ciel a ici des caresses embaumées, pas de saillies, de frises, d'arc-boutants,
de coin favorable où cet oiseau n'est suspendu son lit et son berceau fécond. J'ai observé qu'où cet oiseau habite et multiplie, l'air est très pur.
Entre Lady Macbeth.
Duncan. Voyez, voyez, notre hôtesse honorée. L'amour qui nous poursuit a beau nous déranger parfois, il a toujours nos remerciements comme amour. C'est vous dire qu'il vous faut demander à Dieu de nous bénir pour vos peines et nous remercier de vous déranger.
Lady Macbeth.
Tous nos services fussent-ils en tout point doublés et quadruplés, seraient une pauvre et solitaire offrande opposée à cette masse profonde d'honneur dont votre majesté accable notre maison. Vos bienfaits passés et les dignités récentes que vous y avez ajoutées font de nous des ermites voués à prier pour vous.
Duncan.
Où est le Tan de Cawdor? Nous courions après lui dans l'intention d'être son maréchal des logis, mais il est bon cavalier, et son grand amour, aussi excitant que l'éperon, l'a amené avant nous chez lui. Belle et noble hôtesse, nous sommes votre hôte cette nuit.
Lady Macbeth.
Vos serviteurs tiennent leur existence même et tout ce qui est à eux pour un dépôt dont ils doivent compte à votre Altesse afin de lui rendre toujours ce qui lui est dû.
Duncan.
Donnez-moi votre main, conduisez-moi à mon hôte, nous l'aimons grandement, et nous lui continuerons nos faveurs, hôtesse, avec votre permission.
Ils sortent.
Scène 7. Une chambre dans le château. Hautbois et torches. Un écuyer tranchant et des valets, faisant le service et portant des plats, entrent et traversent le théâtre.
Puis entre Macbeth.
Macbeth.
Si, une fois fait, c'était fini, il serait bon que ce fût vite fait. Si l'assassinat pouvait entraver les conséquences et par son accomplissement assurer le succès, si ce coup pouvait être tout et la fin de tout ici-bas, rien qu'ici-bas, sur le sable mouvant de ce monde, je me jetterais tête baissée dans la vie à venir. Mais ces actes-là trouvent toujours ici-bas leur sentence. Les leçons sanglantes que nous enseignons reviennent une fois apprises châtier le précepteur. La justice à la main impartiale présente le calice empoisonné par nous à nos propres lèvres. Il est ici sous une double sauvegarde. D'abord, je suis son parent et son sujet. Deux raisons puissantes contre l'action. Ensuite, je suis son hôte. À ce titre, je devrais fermer la porte au meurtrier et non point porter moi-même le couteau. Et puis, ce Duncan a usé si doucement de son pouvoir. Il a été si pur dans ses hautes fonctions que ses vertus emboucheraient la trompette des anges pour dénoncer le crime damné qu'il leur a fait disparaître. Et la pitié, pareille à un nouveau-né tout nu, chevauchant sur l'ouragan ou un chérubin céleste qui monte les coursiers invisibles de l'air, soufflerait l'horrible action dans les yeux de tous, jusqu'à noyer le vent dans un déluge de larmes. Je n'ai, pour presser les flancs de ma volonté, que l'éperon d'une ambition qui prend trop d'élan et se laisse désarçonner. Eh bien, quoi de nouveau ?
Entre Lady Macbeth.
Lady Macbeth.
Il a presque soupé. Pourquoi avez-vous quitté la salle?
Macbeth.
M'a-t-il demandé?
Lady Macbeth.
Ne le savez-vous pas?
Macbeth.
Nous n'irons pas plus loin dans cette affaire. Il vient de m'honorer, et j'ai acheté de toutes les classes du peuple une réputation dorée qu'il convient de porter maintenant dans l'éclat de sa fraîcheur, et non de jeter sitôt de côté.
Lady Macbeth.
Était-elle donc ivre, l'espérance dans laquelle vous vous drapiez? S'est-elle endormie depuis? Et ne fait-elle que se réveiller pour verdir et pâlir ainsi devant ce qu'elle contemplait si volontiers? Désormais je ferai le même cas de ton amour.
As-tu peur d'être dans tes actes et dans ta résolution le même que dans ton désir? Voudrais-tu avoir ce que tu estimes être l'ornement de la vie et vivre croire dans ta propre estime, laissant un « je n'ose pas suivre » et un « je voudrais » comme le pauvre chat de l'adage?
Macbeth, paix, je te prie, j'ose tout ce qui sied à un homme, qui ose au-delà n'en est plus un.
Lady Macbeth,
quelle est donc la bête qui vous a poussé à me révéler cette affaire? Quand vous l'avez osé, vous étiez un homme. Maintenant, soyez plus que vous n'étiez. Vous n'en serez que plus homme. Ni l'occasion, ni le lieu ne s'offraient alors, et vous vouliez pourtant les créer tous deux. Ils se sont créés d'eux-mêmes, et voilà que leur concours vous anéantit. J'ai allaité, et je sais combien j'aime tendrement le petit qui me tête. Eh bien, au moment où il souriait à ma face, j'aurais arraché le bout de mon sein de ses gencives sans os, et je lui aurais fait jaillir la cervelle si je l'avais juré comme vous avez juré ceci.
Macbeth.
Et si nous allions échouer?
Lady Macbeth.
Nous échouer? Chevillez seulement votre courage au point résistant, et nous n'échouerons pas. Lorsque Duncan sera endormi, et le rude voyage d'aujourd'hui va l'inviter bien vite à un somme profond, j'aurai raison de ces deux chambellans avec du vin et de l'âle, à ce point que la mémoire gardienne de leur cervelle ne sera que fumée et le récipient de leur raison qu'un alambic. Quand le sommeil du porc tiendra gisant comme une mort leur être submergé, que ne pourrons-nous, vous et moi, exécuté sur Duncan sans défense? Que ne pourrons-nous imputer à ces officiers placés là comme des éponges pour absorber le crime de ce grand meurtre?
Macbeth.
Ne mets au monde que des enfants mâles, car ta nature intrépide ne doit former que des hommes. Ne sera-t-il pas admis par tous quand nous aurons marqué de sang ces deux chambellans endormis et employé leurs propres poignards, que ce sont eux qui ont fait la chose?
Lady Macbeth.
Qui osera admettre le contraire, quand nous ferons rugir notre douleur et nos lamentations sur sa mort?
Macbeth.
Me voilà résolu. Je vais tendre tous les ressorts de mon être vers cet acte terrible. Allons et jouons notre monde par la plus sereine apparence. Un visage faux doit cacher ce que c'est un cœur faux.
Ils sortent. Scène 8. Une cour dans l'intérieur du château. Entre Banquo et Fléance, précédés d'un serviteur portant un flambeau. Banquo.
Où en est la nuit, enfant?
Fléance.
La lune est couchée, je n'ai pas entendu l'horloge.
Banquo. Et elle se couche à minuit?
Fléance.
Je conclus qu'il est plus tard, monsieur.
Banquo. Tiens, prends mon épée, le ciel fait de l'économie. Il a éteint toutes ses chandelles. Emporte ça aussi. La sommation de la fatigue pèse sur moi comme du plomb, et pourtant je ne voudrais pas dormir. Puissance miséricordieuse, réprimez en moi les pensées maudites auxquelles notre nature donne accès dans le repos. Donne-moi mon épée. Entre Macbeth et un serviteur qui porte un flambeau. Qui va là?
Macbeth.
Un ami.
Banquo.
Quoi? Monsieur pas encore au lit? Le roi est couché. Il a été d'une bonne humeur rare, et il a fait de grandes largesses à vos gens. Il présente ce diamant à votre femme comme la plus aimable hôtesse, et il s'est retiré dans un contentement inexprimable.
Macbeth.
Prise à l'improviste, notre hospitalité a été assujettie à l'insuffisance. Sans cela,
elle se fût exercée largement.
Banco. Tout est bien. J'ai rêvé la nuit dernière des trois sœurs fatales. Pour vous, elles se sont montrées assez véridiques.
Macbeth.
Je n'y pense plus. Cependant, quand nous aurons une heure à notre service, nous échangerons quelques mots sur cette affaire si vous y consentez.
Banco.
À votre convenance.
Macbeth.
Si vous adhérez à mes vues le moment venu, vous y gagnerez de l'honneur.
Banco.
Pourvu que je ne le perde pas en cherchant à l'augmenter, et que je garde toujours ma conscience libre et ma loyauté nette, je me laisse conseiller.
Macbeth.
Bonne nuit en attendant.
Banco.
Merci, monsieur, même souhait pour vous.
Sort Banco.
Macbeth. Va dire à ta maîtresse que quand ma boisson sera prête, elle frappe sur la cloche. Va te mettre au lit.
Sort le serviteur.
Macbeth. Est-ce un poignard que je vois là devant moi, la poignée vers ma main? Viens que je te saisisse. Je ne te tiens pas, et pourtant je te vois toujours. N'es-tu pas vision fatale, sensible au toucher comme à la vue? Ou n'es-tu qu'un poignard imaginaire, fausse création émanée d'un cerveau en feu? Je te vois pourtant aussi palpable en apparence que celui que je tire en ce moment. Tu m'indiques le chemin que j'allais prendre, et tu es bien l'instrument que j'allais employer. Où mes yeux sont les jouets de mes autres sens, où seuls ils les valent tous. Je te vois toujours, et sur ta lame et sur ton manche des gouttes de sang qui n'y étaient pas tout à l'heure. Mais non, rien de pareil. C'est cette sanglante affaire qui prend forme, ainsi à ma vue. Maintenant, sur la moitié de ce monde, la nature semble morte, et les mauvais rêves abusent le sommeil sous ses rideaux. Maintenant, la sorcellerie offre ses sacrifices à la pâle Hécate, et le meurtre hâve, éveillé en sursaut par le loup, sa sentinelle, dont le hurlement et son cri d'alerte, s'avance ainsi d'un pas furtif, avec les allures du ravisseur Tarquin, et marche à son projet comme un spectre. Toi, terre solide et ferme, n'entends point mes pas, quelque chemin qu'ils prennent, de peur que tes pierres mêmes ne jasent de mon approche, et ne retire à ce moment la muette horreur qui lui va si bien. Tandis que je menace l'autre vie, les mots jettent un souffle trop froid sur le feu de l'action.
La cloche sonne.
J'y vais et c'est fait, la cloche m'invite. Ne l'entends pas, Duncan, car c'est le glas qui t'appelle au ciel ou en enfer.
Il sort.
Entre Lady Macbeth.
Lady Macbeth.
Ce qui les a rendus ivres m'a rendu hardi. Ce qui les a éteints m'a enflammé. Écoutez, paix. C'est le hibou qui a crié, fatal carillonneur qui donne le plus sinistre bonsoir. Il est à l'œuvre. Les portes sont ouvertes, et les grooms gorgés narguent leur office par des ronflements. J'ai drogué leur potion du soir. Si bien que la mort et la nature disputent entre elles s'ils vivent ou s'ils meurent.
Macbeth apparaissant au fond du théâtre.
Qui est là? Holà!
Il disparaît.
Lady Macbeth. Hélas, j'ai peur qu'il ne se soit réveillé. Et que ce ne soit pas fait. La tentative sans le succès nous perd. Écoutons. J'avais disposé leur poignard, il a dû forcément les trouver. S'il n'avait pas ressemblé dans son sommeil à mon père, j'aurais fait la chose, mon mari.
Entre Macbeth.
Macbeth. J'ai fait l'action. N'as-tu pas entendu un bruit ?
Lady Macbeth.
J'ai entendu le hibou huer et le grillon crier. N'avez-vous pas parlé ?
Macbeth.
Quand ?
Lady Macbeth. À l'instant même.
Macbeth. Quand je descendais ?
Lady Macbeth. Oui.
Macbeth. Écoute, qui couche dans la seconde chambre ?
Lady Macbeth.
Donald Ben.
Macbeth regardant ses mains.
Voilà un triste spectacle.
Lady Macbeth.
Niaise idée de dire triste spectacle.
Macbeth.
Il y en a un qui a ri dans son sommeil et un qui a crié au meurtre. Si bien qu'ils se sont éveillés l'un l'autre, je me suis arrêté en les écoutant. Mais ils ont dit leurs prières et se sont remis à dormir.
Lady Macbeth.
Ils sont tous deux logés ensemble.
Macbeth.
L'un a crié « Dieu nous bénisse » et l'autre « Amen ». Comme s'il m'avait vu avec ses mains de bourreau. Écoutant leur frayeur, je n'ai pu dire « Amen » quand ils ont dit « Dieu nous bénisse ».
Lady Macbeth.
Ne vous préoccupez pas tant de cela.
Macbeth.
Mais pourquoi n'ai-je pas pu prononcer « Amen » ? J'avais le plus grand besoin de bénédiction, et le mot « Amen » s'est arrêté dans ma gorge.
Lady Macbeth.
On ne doit pas penser à ces actions-là de cette façon. Ce serait à nous rendre fous.
Macbeth.
Il m'a semblé entendre une voix crier « Ne dors plus !» Macbeth a tué le sommeil. Le sommeil innocent, le sommeil qui démêle l'écheveau embrouillé du souci, le sommeil mort de la vie de chaque jour, bain du labeur douloureux, baume des âmes blessées, second service de la grande nature, aliment suprême du banquet de la vie.
Lady Macbeth.
Que voulez-vous dire ?
Macbeth.
Et cette voix criait toujours par toute la maison « Ne dors plus !» Glamis a tué le sommeil, et aussi Codor ne dormira plus, Macbeth ne dormira plus.
Lady Macbeth.
Qui donc criait ainsi ? Ah, Ding Tan, vous ébranlez votre noble énergie par ces réflexions d'un cerveau malade. Allez chercher de l'eau et lavez votre main de cette tâche accusatrice. Pourquoi n'avez-vous pas laissé à leur place ces poignards ? Il faut qu'ils restent là-haut. Allez les reporter et barbouillez de sang les chambellans endormis.
Macbeth.
Je n'irai plus. J'ai peur de penser à ce que j'ai fait. Regardez cela encore. Je n'ose pas.
Lady Macbeth.
Faible de volonté, donne-moi les poignards. Les dormants et les morts ne sont que des images. C'est l'œil de l'enfance qui s'effraie d'un diable peint. S'il saigne, je dorerai de son sang la figure de ces gens, car il faut qu'ils semblent coupables.
Elle sort. On entend frapper derrière le théâtre.
Macbeth. De quel côté frappe-t-on ? Dans quel état suis-je donc, que le moindre bruit m'épouvante ?
Regardant ses mains.
Quelles sont ces mains-là ? Ah, elles m'arrachent les yeux. Tout l'océan du grand Neptune suffira-t-il à laver ce sang de ma main ? Non, c'est plutôt ma main qui donnerait son incarnat aux vagues innombrables, en faisant de l'eau verte un flot rouge.
Rentre Lady Macbeth.
Lady Macbeth. Mes mains ont la couleur des vôtres, mais j'aurais honte d'avoir le cœur aussi blême.
On frappe.
J'entends frapper à l'entrée du sud. Retirons-nous dans notre chambre. Un peu d'eau va nous laver de cette action. Comme c'est donc aisé. Votre résolution vous a laissé en route.
On frappe.
Écoutez, on frappe encore. Mettez votre robe de nuit, de peur qu'un accident ne nous appelle et ne montre que nous avons veillé.
Ne vous perdez pas si misérablement dans vos pensées.
Macbeth.
Connaître ce que j'ai fait, mieux vaudrait ne plus me connaître.
On frappe.
Éveille Duncan avec ton tapage, je voudrais que tu le pusses.
Ils sortent.
Entre un portier.
On frappe derrière le théâtre.
Le portier. Voilà qui s'appelle frapper. Un homme qui serait portier de l'enfer serait habitué à tourner la clé.
On frappe.
Frappe, frappe, frappe. Qui est là au nom de Belzébuth? C'est un fermier qui s'est pendu à force d'attendre une bonne récolte. Il fallait venir à l'heure. Mettez-vous force mouchoir autour de vous, car vous allez suer ici pour la peine.
On frappe.
Frappe, frappe. Qui est là au nom de l'autre diable? Ma foi, ce doit être un casuiste qui pouvait jurer indifféremment par un des plateaux contre l'autre, et qui, après avoir commis suffisamment de trahison pour l'amour de Dieu, n'a pas pu cependant équivoquer avec le ciel. Oh, entrez, maître casuiste!
On frappe.
Frappe, frappe, frappe. Qui est là? Ma foi, c'est un tailleur anglais venu ici pour avoir volé sur un haut-de-chausse français. Entrez, tailleur, vous pourrez chauffer ici votre carreau.
On frappe.
Frappe, frappe, jamais en repos. Qui êtes-vous? Décidément, cette place est trop froide pour un enfer. Je ne veux plus faire le portier du diable. Je serais censé devoir ouvrir aux gens de toute profession qui s'en vont par un chemin fleuri de primes vertes au feu de joie éternelle.
On frappe.
Tout à l'heure, n'oubliez pas le portier, je vous prie.
Il ouvre la porte.
Macduff et Lennox entrent.
Macduff.
Il était donc bien tard, l'ami, quand tu t'es mis au lit, que tu restes couché si tard.
Le portier.
Ma foi, monsieur, nous avons fait des libations jusqu'au second chant du coq. Et le boire, monsieur, est le grand provocateur de trois choses.
Macduff.
Quelles sont les trois choses que le boire provoque spécialement?
Le portier.
Dame, monsieur, le nez rouge, le sommeil et l'urine.
Quant à la paillardise, monsieur, il la provoque et la réprime.
Il provoque le désir et empêche l'exécution. On peut donc dire que le boire excessif est le casuiste de la paillardise. Il la crée et la détruit. Il l'excite et la dissipe. Il la stimule et la décourage. Il la met en train et pas en train. Pour conclusion, il l'amène à un sommeil équivoque et l'abandonne en lui donnant le démenti.
Macduff.
Je crois que le boire t'a donné un démenti la nuit dernière.
Le portier.
Oui, monsieur, un démenti par la gorge. Mais je le lui ai bien rendu, car étant, je crois, plus fort que lui, bien qu'il m'ait tenu quelque temps les jambes, j'ai trouvé moyen de m'en débarrasser.
Macduff.
Ton maître est-il levé? Nos coups de marteau l'ont éveillé? Le voici.
Macbeth entre. Lennox.
Bonjour, noble seigneur.
Macbeth.
Bonjour à tous deux.
Macduff.
Le roi est-il levé, Dintan?
Macbeth.
Pas encore.
Macduff.
Il m'a ordonné de venir le voir de bon matin. J'ai presque laissé échapper l'heure.
Macbeth.
Je vais vous mener à lui.
Macduff.
C'est un dérangement plein de charme pour vous, je le sais, mais pourtant c'en est un.
Macbeth.
Le plaisir d'un travail en guérit la peine. Voici la porte.
Macduff.
Je prendrai la liberté d'entrer, car c'est une prescription de mon service.
Sort Macduff.
Lennox. Le roi s'en va-t-il d'ici aujourd'hui?
Macbeth.
Oui, il l'a décidé ainsi.
Lennox.
La nuit a été tumultueuse là où nous couchions. Les cheminées ont été renversées par le vent. On a, dit-on, entendu des lamentations dans l'air, d'étranges cris de mort,
et des voix prophétisant avec un accent terrible d'affreux embrasements et des événements confus qui couvent une époque de calamité. L'oiseau obscur a glapi toute la nuit. On dit même que la terre avait la fièvre et a tremblé.
Macbeth. Ça a été une rude nuit.
Lennox.
Ma jeune mémoire ne m'en rappelle pas une pareille.
Rentre Macduff.
Macduff.
Oh, horreur, horreur! Il n'est ni langue ni cœur qui puisse te concevoir ou te nommer.
Macbeth et Lennox.
Qu'y a-t-il?
Macduff.
Le chaos vient de faire son chef-d'œuvre. Le meurtre le plus sacrilège a ouvert par effraction le temple sacré du Seigneur et en a volé la vie qui l'animait.
Macbeth.
Que dites-vous, la vie?
Lennox.
Voulez-vous parler de Sa Majesté?
Macduff.
Entrez dans la chambre et aveuglez-vous devant une nouvelle gorgone. Ne me dites pas de parler, voyez, et alors parlez vous-même.
Sortent Macbeth et Lennox.
Éveillez-vous, éveillez-vous, sonnez la cloche d'alarme, au meurtre, trahison, Banquo, Donalben, Malcolm, éveillez-vous, secouez sur le duvet ce sommeil, contrefaçon de la mort, et regardez la mort elle-même, debout, debout, et voyez l'image du jugement dernier, Malcolm, Banquo, levez-vous comme de vos tombeaux et avancez comme des spectres pour être à l'avenant de cette horreur. Sonnez la cloche.
La cloche sonne. Entre Lady Macbeth. Lady Macbeth.
Que se passe-t-il? Pourquoi cette fanfare sinistre convoque-t-elle les dormeurs de la maison? Parlez, parlez.
Macduff.
Oh, gentille dame, vous n'êtes pas faite pour entendre ce que je puis dire. Ce récit fait à l'oreille d'une femme la blesserait mortellement.
Entre Banquo.
Oh, Banquo, Banquo, notre royal maître assassiné!
Lady Macbeth.
Quel malheur, hélas, dans notre maison!
Banquo.
Malheur trop cruel, n'importe où! Cher Duff, dément-toi par grâce, et dis que cela n'est pas.
Rentre Macbeth et Lennox.
Macbeth.
Que ne suis-je mort une heure avant cet événement? J'aurais eu une vie bénie. Dès cet instant, il n'y a plus rien de sérieux dans ce monde mortel. Tout n'est que hochet. La gloire et la grâce sont mortes. Le vin de la vie est tiré. Et la lie seule reste à cette cave pompeuse.
Entre Malcolm et Donalben.
Donalben. Quel malheur y a-t-il?
Macbeth.
Vous existez, vous ne le savez pas. La fontaine primitive et suprême de votre sang est tarie, tarie dans sa source.
Macduff.
Votre royal père est assassiné.
Malcolm.
Oh, par qui?
Lennox.
Par les gens de sa chambre suivant toute apparence. Leurs mains et leurs visages étaient tout empourprés de sang, ainsi que leurs poignards que nous avons trouvés non essuyés sur leur oreiller. Ils avaient l'œil fixe et étaient effarés. À les voir, on leur eût confié la vie de personne.
Macbeth.
Oh, pourtant je me repens du mouvement de fureur qui me les a fait tuer.
Macduff.
Pourquoi les avez-vous tués?
Macbeth.
Qui peut être sage et éperdu, calme et furieux, loyal et neutre à la fois? Personne. La précipitation de mon dévouement violent a devancé la raison plus lente. Ici gisait Duncan. Sa peau argentine était lamée de son sang vermeil. Et ses blessures béantes semblaient une brèche à la nature faite pour l'entrée dévastatrice de la ruine. Là étaient les meurtriers, teints des couleurs de leur métier, leurs poignards ayant une gaine monstrueuse de caillots. Quel est donc l'être qui, ayant un cœur pour aimer et du courage au cœur, eût pu s'empêcher de prouver alors son amour?
Lady Macbeth.
À l'aide! Emmenez-moi d'ici.
Macduff.
Prenez soin de madame.
Malcolm.
Pourquoi gardons-nous le silence, nous qui avons tout droit de revendiquer cette cause comme la nôtre?
Donalben.
Pourquoi parlerions-nous ici, où la fatalité cachée dans un trou de vrille peut se ruer sur nous et nous accabler? Fuyons, nos larmes ne sont pas encore brassées.
Malcolm.
Et notre désespoir n'est pas en mesure d'agir.
Banco.
Prenez soin de madame.
On emporte Lady Macbeth.
Puis, quand nous aurons couvert nos frêles nudités, ainsi exposées à un froid dangereux, réunissons-nous et questionnons ce sanglant exploit. Pour le mieux connaître, les craintes et les doutes nous agitent. Moi, je me mets dans la main immense de Dieu, et de là, je combats les prétentions encore ignorées d'une criminelle trahison.
Macduff.
Et moi aussi. Tous. Et nous tous.
Macbeth.
Revêtons vite un appareil viril, et réunissons-nous dans la grande salle.
Tous. C'est convenu.
Tous sortent, excepté Malcolm et Donalben.
Malcolm.
Que voulez-vous faire? Ne nous associons pas avec eux. Faire montre d'une douleur non sentie est un rôle aisé pour l'homme faux.
J'irai en Angleterre, Donalben,
moi en Irlande. En séparant nos fortunes, nous serons plus en sûreté. Où nous sommes, il y a des poignards dans les sourires. Le plus près de notre sang est le plus près de le verser.
Malcolm.
La flèche meurtrière qui a été lancée n'a pas encore atteint le but. Et le parti le plus sûr pour nous est de nous mettre hors de portée. Ainsi, à cheval, ne soyons pas scrupuleux sur les adieux, mais esquivons-nous. Le vol qui consiste à se dérober est permis quand il n'y a plus de merci à attendre.
Ils sortent.